les podcasts de Radio Vatican.
Il y a tout juste 10 ans, le 5 août 2007, le cardinal Jean-Marie Lustiger s'éteignait à Paris à l'âge de 80 ans. Né dans la capitale française le 17 septembre 1926 de parents juifs d'origine polonaise, Aaron Lustiger sera baptisé en 1940, puis entrera au séminaire des Carmes. Ordonné prêtre en 1954, jeune curé à la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal à Paris, il se fera vite remarquer par la qualité de ses homélies. Tour à tour évêque d'Orléans puis archevêque de Paris, Jean-Paul II le créera cardinal en 1983. Homme au caractère fort, le cardinal Lustiger aura profondément transformé le diocèse de Paris, mais son influence dépasse largement les frontières de la capitale et même de la France. Philippe Portier dirige le laboratoire de recherche Société, Religion et Laïcité au sein du CNRS. Il revient sur la fécondité du cardinal Lustiger.
Elle s'exprime, me semble-t-il, par divers aspects. Le cardinal Lustiger a, tout au long de sa grande carrière ecclésiastique, réévalué, me semble-t-il, la place du catholicisme dans l'espace français, peut-être même dans l'espace international, dans l'espace parisien sûrement, en développant tout à la fois une politique de construction, une politique aussi de présence culturelle de l'Église dans le monde de ce temps, en y ajoutant de surcroît une influence tout à fait significative dans les débats politiques du temps, débats politiques du temps au sens large, concernant d'une part l'école, d'autre part les questions relatives à la bioéthique, et puis enfin, surtout, la place de l'argument religieux dans la délibération collective.
Est-ce que l'on peut dire que le cardinal Lustiger portait un catholicisme d'affirmation à l'heure où certains, justement, pouvait être un peu plus timoré?
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Si l'on se souvient du cardinal Lustiger, c'est en raison, bien sûr, de son charisme propre, mais aussi en raison de la rupture qu'il introduit, ou en tout cas de l'inflexion qu'il introduit dans le catholicisme français au début des années 1980, en lien d'ailleurs avec l'inflexion que Jean-Paul II fait subir alors au catholicisme mondial. Il y avait jusqu'alors une tentation de l'enfouissement, une tentation de la discrétion. Il se trouve qu'à partir des années 1970, la foi catholique, la foi chrétienne, demande à s'affirmer plus explicitement. C'est d'ailleurs l'un des points de l'exposé des motifs de la revue Communio, lorsqu'elle se crée au milieu des années 1970. Le cardinal Lustiger, au début des années 80, va tout à fait dans ce sens, sur la ligne d'ailleurs de ce qu'il avait déjà prôné dans les années précédentes, ces années d'aumônier, ces années de prêtre de paroisse, ces années d'évêque d'Orléans aussi, montrer que la foi doit avoir une influence explicite, il n'est pas besoin d'être discret pour être chrétien, une influence explicite de manière à reconfigurer l'espace de nos existences privées et publiques.
Alors quand on évoque la figure du cardinal Lustiger, on évoque bien entendu aussi le judaïsme. Quel apport a-t-il donné finalement au dialogue judéo-chrétien?
Il y a eu l'idée que Jean-Paul II instrumentalisait peut-être la judéité du cardinal Lustiger pour affirmer une politique d'extension du catholicisme ou de la catholicité sur l'ensemble des mondes religieux. Très vite, on s'est aperçu que tout cela ne tenait pas, y compris au sein du monde juif, qui a tenu à avoir des relations très, très privilégiées avec le cardinal Lustiger, qui lui-même allait dans ce sens. Un certain nombre d'éléments sont arrivés, des dialogues entre le catholicisme et le judaïsme, l'affaire aussi du Carmel d'Auschwitz qui se résout grâce en partie à l'intervention du cardinal Lustiger, autant d'éléments qui visent à rapprocher le monde juif du monde catholique. Et de ce point de vue, il en reste évidemment plus que des traces, il en reste un héritage extrêmement important, l'idée que le judaïsme aujourd'hui se trouve très souvent en relation de connivence, en relation d'amitié intellectuelle et affective, avec un catholicisme dont le cardinal Lustiger a contribué à ouvrir les perspectives à l'influence de la culture et de la foi juive. De ce point de vue, il y a, me semble-t-il, du côté du cardinal Lustiger, un apport, un héritage tout à fait essentiel.
Jean-Marie Lustiger avait un très fort caractère. Il était connu parfois pour ses colères, pour son intransigeance aussi. Il disait de lui « Je suis une provocation vivante ». Est-ce que c'est une figure qui dérangeait au sein de l'Église, mais même au-delà?
Oui, il n'a jamais pu être élu, par exemple. Il en aurait eu le souhait, président de la conférence épiscopale cathédrale de France, probablement parce que son caractère, le caractère aussi très acéré de sa pensée, avait suscité au sein de la conférence des évêques peut-être un certain nombre de réticences. Provocation en effet sur le plan doctrinal, sur le plan disiez-vous du caractère, parfois l'idée précisément que l'Église doit être gérée par une autorité qu'il reliait d'ailleurs lui-même à son élection divine. C'est un point qui apparaît très, très clairement, souvent, dans ses propres écrits, dans ses propres paroles. Provocation aussi par son propre parcours, au fond. Il s'affirme catholique et établit un lien avec le monde juif, et il y a là, me semble-t-il, aussi un élément d'originalité dans la personnalité du cardinal Lustiger qui tranche et qui en fait aujourd'hui une figure centrale des dernières années de l'histoire catholique du XXe siècle.
Peut-être juste un point sur la figure intellectuelle du cardinal Lustiger. Le cardinal Lustiger qui a été aussi élu à l'Académie française, ça aussi c'était une personnalité qui a occupé l'espace intellectuel français.
Oui, il se trouve qu'il y a une véritable pensée du cardinal Lustiger. Il n'aimait pas rédiger. Il préférait parler et ensuite voir ses paroles être retranscrites par écrit. Mais il y a une véritable pensée du cardinal Lustiger qui repose sur une lecture très inspirée d'ailleurs par le cardinal Henri de Lubac, très inspirée donc par un certain nombre de figures, celle aussi d'Urs van Balthasar, qui contribue à faire de la pensée du cardinal Lustiger un regard tout à fait intéressant, important sur le destin des Lumières, avec cette idée que les Lumières s'inscrivent dans la suite du christianisme, avec des valeurs fondamentales comme la liberté, l'égalité ou la fraternité, les droits de l'homme aussi, mais avec, à un moment donné, une sorte de rupture néfaste qui a conduit les droits de l'homme à venir justifier le relativisme de nos sociétés. Et c'est dans cette articulation, au fond, qu'on peut penser la singularité du cardinal Lustiger, articulation entre le souci de préserver les intuitions fondatrices des Lumières et puis des résultats qui parfois n'ont pas été à la hauteur des promesses, pas été à la hauteur des espérances. Il me semble que l'Académie française a, au bout du compte, reconnu toute la valeur de cette pensée, cet apport tout à fait significatif à l'étude du destin de la modernité.
On a parlé d'une génération JMJ. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a aussi une génération Lustiger dans ce qu'il a apporté notamment à Paris?
Oui, moi je pense d'ailleurs que ça relève du même mouvement, un catholicisme d'identité qui s'exprime du côté du laïcat, Journée mondiale de la jeunesse, qui s'exprime du côté du presbytérium. On voit bien qu'une nouvelle génération formée par les séminaires Lustiger, comme on le disait, séminaires de Paris, prolongés par des années d'études à Bruxelles auprès des jésuites, tout cela a formé une nouvelle génération de prêtres qui, tout en préservant les acquis du Concile Vatican II, la question tellement centrale, par exemple, de la liberté religieuse, n'entendent pas que le Concile de Vatican II se dissolve simplement dans un libéralisme relativiste. Il y a chez le cardinal Lustiger, comme chez cette génération de prêtres qu'il a contribué à former, l'idée que le Concile doit être perçu dans une sorte de continuité avec une tradition préexistante. Et de ce point de vue, si vous voulez, il y a là, en effet, me semble-t-il, une sorte d'évolution par rapport à un climat post-conciliaire qu'on avait vu se développer dans les fins des années 60 et tout au long de la décennie 1960.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.